Depuis des années déjà, Absalom avait fait sa campagne de séduction parmi le peuple. C'était un beau gars et il en profitait. Il savait aussi parler aux gens. Il avait réussi de cette manière à attirer l'attention de beaucoup de gens dans le peuple et d'attirer aussi la sympathie de beaucoup de gens. Il n'était pas ce vieux roi à la barbe grisonnante qu'était David, son père. Lui, c'était un beau gars, un beau jeune homme, un jeune énergique, un fameux candidat pour le trône. Et il se présentait comme celui qui allait faire des réformes extraordinaires dans le pays. Il avait réussi à rassembler autour de lui beaucoup de gens influents. Beaucoup de gens aimaient Absalom. Jusqu'au jour où le parti de Absalom a été suffisamment fort pour pouvoir être une menace pour le roi David. Finalement, Absalom a rassemblé autour de lui une armée et le conflit était devenu inévitable. C'était ou le père ou le fils. Et comme le fils était jeune et énergique, beaucoup de gens se sont ralliés à lui et étaient prêts à combattre pour pouvoir le mettre sur le trône. Ils pensaient que Absalom était capable de faire des réformes et de faire ce qu'il disait. Finalement, devant la menace que Absalom a représentée pour David, son père et ses partisans, les hommes de David se sont rassemblés et se sont préparés à un combat inévitable. Et le texte du livre de 2 Samuel au chapitre 18 nous dit que cette bataille a eu lieu dans la forêt d'Éphraïm et que ce jour-là, 20 000 hommes ont perdu la vie dans cette bataille. 20 000 hommes, c'est une énorme perte pour une ambition. Les hommes de David ont remporté la victoire et ils étaient désireux de la faire connaître au roi. Lui-même avait dit d'ailleurs qu'il voulait aller combattre avec eux. Et Joab, le chef de l'armée, avait insisté en disant « pas question ». Tu restes à la maison, on s'occupe de ça. » David était donc resté, attendant de savoir quelle était l'issue de ce combat. Et il avait donné des instructions précises. « Surtout, allez-y doucement avec le jeune Absalom. Protégez le jeune Absalom. » Un ordre que ses partisans avaient du mal à comprendre. Mais il avait insisté devant tout le monde, devant les chefs et devant les soldats, « Allez-y doucement avec le jeune Absalom. » Devant la défaite des partisans d'Absalom, Absalom lui-même a senti qu'il était préférable qu'il se retire. Monté sur son mulet, vous connaissez l'histoire, il part à travers la forêt pour se sauver. Il passe sous un térébinthe aux branches basses et sa grande chevelure va se prendre dans les branches. Le mulet continue et Absalom est suspendu en l'air par ses cheveux dans les branches du térébinthe. Position inconfortable. Un soldat, probablement du nom de Couchi, de l'armée de David, voit Absalom suspendu par ses cheveux dans l'arbre et il va le dire à Joab, le chef de l'armée, et lui dit « Absalom est fini, il est suspendu par ses cheveux dans le térébinthe à tel endroit ». Et Joab lui dit, « Mais enfin, tu ne l'as pas liquidé ?» Et cet homme lui dit, « Mais c'est le fils du roi. N'as-tu pas entendu ce que le roi lui-même a donné comme recommandation à tout le monde ?» Et Joab lui dit, « Mais qu'est-ce que tu crois ?» Joab lui-même prend 3 lances, va à l'endroit où Absalom est suspendu et lui-même transperce Absalom de 3 coups de lance. Il y a avec lui d'autres jeunes soldats qui s'occupent d'Absalom, qui le font mourir, qui le jettent dans un ravin et qui comblent le ravin de pierres. On n'en parle plus de ce jeune ambitieux. C'est alors que, de retour au camp, un homme se présente à Joab, le chef de l'armée. Il s'appelle Achimatz et il dit « Est-ce que je peux courir annoncer la bonne nouvelle au roi ?» Et Joab lui dit « Non, tu n'as pas à courir pour aller annoncer la bonne nouvelle au roi. » Et il se tourne vers Couchi, qui a vu tout ce qui s'est passé. Et il dit à Couchi, « Toi, tu vas courir. Tu vas courir jusqu'au roi et lui annoncer. » Et le texte rapporte les paroles de Joab. C'est dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 18 et au verset 21. Joab dit « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Et Couchi part, il court. Il va courir tout le long du chemin jusqu'à ce qu'il retrouve David pour lui dire ce qu'il a à dire. Mais Achimatz insiste, il dit « Est-ce que je peux courir aussi, moi ?» Et Joab lui dit mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux courir ?» Et il insiste, il dit « Même si Couchi est parti, est-ce que je peux courir aussi ?» Joab, qui en a assez, « Tu veux courir ? Cours, mon garçon !» Et Achimatz s'en va. Achimatz va prendre un chemin un peu plus court que Couchi, de sorte qu'il va arriver même avant Couchi, qui est parti avant lui. La sentinelle de loin va voir un homme qui court. Et David va dire, « Est-ce qu'il court seul ?» Oui, s'il court seul, alors c'est un messager. Et de loin, ils reconnaissent Achimatz. Ah, il apporte des nouvelles. Et David est anxieux de savoir ce qui s'est passé. Achimatz arrive, tout essoufflé, et lui dit au roi, « Tout va bien. » Oui, mais qu'en est-il d'Absalom ? Et Achimatz lui dit, « J'ai aperçu un tumulte, mais je ne sais ce que c'était. » Autrement dit, tu n'as rien à dire. Entre-temps, la sentinelle voit venir Couchi, qui était parti avant, mais qui arrive après. Celui que Joab avait envoyé en disant, « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Couchi arrive et donne au roi cette nouvelle que ses partisans ont eu la victoire. Et le roi lui dit, « Mais qu'en est-il d'Absalom ?» Et avec beaucoup de diplomatie, Couchi va lui faire comprendre qu'Absalom est mort. David est effondré. Mais il y a dans cette histoire deux messagers. Deux messagers, mais l'un avait un message et l'autre n'en avait pas. Celui qui tenait tellement à courir pour annoncer un message n'en avait pas. L'autre, que l'on a envoyé, avait quelque chose à dire parce qu'il avait vu. Et je me demande aujourd'hui combien de chrétiens sont en train de courir avec Achimatz. De courir. Mais ils n'ont pas de message. Ils n'ont pas été témoins de la défaite de l'ennemi pour en témoigner et apporter un message clair au monde d'aujourd'hui. Ils n'ont pas vu. Et ils ne seront pas convaincants auprès de quiconque s'ils disent « Oh, nous sommes beaucoup de chrétiens, nous avons beaucoup de louanges, nous sommes très heureux ensemble, nous avons beaucoup d'activités. » Et si on leur demande ce que la parole de Dieu dit, il y a un grand tumulte là, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Ce n'est pas avec ce message que l'on convaincra le monde de la puissance de Dieu pour vaincre. Deux messagers, l'un avec un message, l'autre sans message. À quoi sert un messager sans message ? Un messager sans message, c'est un faux témoin. Un messager sans message, c'est un faux prophète. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 19, il nous est expliqué que un témoignage ne peut être reçu que lorsqu'il est apporté par au moins deux ou trois témoins. On ne va pas recevoir comme vrai le témoignage qu'une seule personne va apporter. Il en faut au moins deux. Et c'est la raison pour laquelle dans les Écritures, le chiffre 2 va devenir bien souvent le chiffre associé au témoignage. D'ailleurs, Jésus va envoyer ses disciples deux par deux pour apporter leur témoignage. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, nous retrouvons encore les deux témoins. Ces deux témoins d'ailleurs qui vont rendre visite à Jésus dans le moment que nous connaissons sous le nom de la Transfiguration. Moïse et Élie. Deux témoins, l'un qui représente les commandements de Dieu et l'autre qui représente le témoignage de Jésus. Élie, celui qui, selon la prophétie, doit venir à la fin des temps et être l'instrument de la réconciliation entre Dieu le Père et ses enfants. Ainsi, l'Apocalypse nous parle de ces deux témoins. Mais lorsqu'on ouvre l'Apocalypse au chapitre 12, et je vous invite à regarder avec moi ce passage, nous trouvons là les caractéristiques de l'Église de la fin des temps. L'Église de la fin des temps est décrite dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17, dit ceci. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Voilà les deux caractéristiques que ces deux témoins possèdent. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Mais qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Il nous faut aller quelques chapitres plus loin, dans Apocalypse au chapitre 19, pour avoir la réponse. Elle nous est donnée à la fin du verset 10. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et là, il nous est dit, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Nous apprenons donc à la fin des temps, le ministère prophétique va se manifester dans l'Église par l'action du Saint-Esprit, l'esprit de la prophétie. Mais ce ministère de la prophétie va aller beaucoup plus loin que le rôle prophétique de l'Église. Il va aller plus loin que le rôle prophétique de certains prophètes que Dieu va mettre à part, comme Ellen White, par exemple. Jésus lui-même va nous faire comprendre que ce rôle prophétique va plus loin. Et je vous propose de lire ce que Jésus dit et que Jean rapporte dans son évangile. Évangile de Jean, chapitre 15. Il y a là une indication que Jésus nous donne et qui est extrêmement utile et importante pour nous aujourd'hui. Évangile selon Jean, chapitre 15, nous lirons le verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » L'Esprit va agir. Il va agir par ses instruments choisis, mais Jésus dit, « Vous aussi, vous allez rendre témoignage. » Et le texte nous dit pourquoi ? « Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Je ne peux pas être un témoin et rendre témoignage si je ne suis pas avec Jésus, si je n'ai pas un message à donner. En réalité, Dieu aujourd'hui cherche des témoins fidèles, des messagers qui ont un message et qui peuvent dire ce qu'ils ont vu. En fait, par le baptême, nous sommes tous devenus des témoins de Jésus-Christ. Par le baptême, nous sommes tous devenus des gens qui avons quelque chose à dire, parce que nous l'avons vécu avec Jésus. Notre baptême, c'est notre engagement envers le Seigneur, parce que nous avons vu son action dans notre vie. Nous devenons donc des témoins de Jésus par notre baptême. Mais est-ce que nous avons un message? Tous ceux qui ont reçu le baptême ont un message à donner. Se sentent-ils des messagers investis d'un message ou se sentent-ils des coursiers qui courent et qui n'ont rien à dire? La parole de Dieu nous donne des exemples de Jésus qui envoie ses témoins pourvus d'un message. Regardez par exemple dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5. Ce texte nous raconte l'accueil que Jésus a reçu quand il est allé dans le pays de Gadara. Il a été accueilli par un démoniaque. Un démoniaque que personne ne pouvait lier, vous connaissez le texte. Les disciples ont peur, mais Jésus lui fait face. Et Jésus va aller chercher dans le cœur de cet homme ce désir profond qu'il a, lui, d'être libéré de l'esclavage du diable. Jésus va guérir cet homme. Et cet homme va s'asseoir, vêtu dans son bon sens, dit le texte, au pied de Jésus, pour écouter ce que Jésus a à dire. Et il va dire à Jésus, « Seigneur, permets que je puisse rester avec toi. » Et je comprends cette compagnie de Jésus était la plus belle compagnie qu'il puisse avoir, la compagnie de celui qu'il avait libéré, qu'il avait sauvé. Et je comprends, j'aurais fait la même chose, je l'aurais dit, « Seigneur, je ne te lâche plus. » Mais au verset 19, Jésus lui répondit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il aurait voulu rester avec Jésus. Il a été avec Jésus. Il avait rencontré Jésus d'une façon dramatique dans un sens. Il avait vu la victoire que Jésus avait eue sur l'ennemi en lui. Il avait quelque chose à dire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus lui dit, « Ne reste pas avec moi, va chez les tiens. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. » Il était un messager et il avait un message. Un autre exemple nous est donné dans le livre des Actes et nous pourrions en prendre de nombreux. J'en ai choisi simplement deux pour illustrer notre propos de ce matin. Dans le livre des Actes au chapitre 4, nous rencontrons Pierre et Jean. Et figurez-vous que Pierre et Jean sont arrêtés parce qu'ils ont guéri un infirme de naissance. Et ils parlent de la résurrection de Jésus. Et parce qu'ils font ces choses, ils sont arrêtés. Et on va leur poser la question qu'il ne fallait pas poser. On va leur dire, mais de quelle autorité faites-vous ça? Ça, c'est vraiment donner des bâtons pour se faire battre. De quelle autorité nous faisons ça? Pierre ne manque pas l'occasion. Vous voulez savoir de quelle autorité nous faisons ça? Eh bien, écoutez tous. C'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et qui est vivant, ressuscité. C'est pas ce qu'ils voulaient entendre. Et ils ont là cette sainte audace de dire ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus que nous le faisons. Alors ils voudraient faire taire la chose. Ne répandez pas ça. Et ils choisissent de les menacer, de leur dire ne parlez plus jamais de ce Jésus. Et c'est là qu'ils vont réagir, c'est le verset 20 dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Et ils ont là une parole extraordinaire, ils disent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas se taire. Quand on a vu ce qu'on a vu et entendu ce qu'on a entendu, on ne peut pas se taire. Vous ne nous ferez pas taire. Ça, ils le savaient déjà, en fait. Parce que quelques versets plus tôt, au verset 13, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient affaire à des messagers qui ont un message et qui ne feront jamais taire. Au verset 13, il est dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » C'était des gens comme vous et moi. C'était des gens tout simples, des gens qui n'avaient rien à faire valoir, si ce n'est qu'ils avaient été avec Jésus. Et ceux qui s'opposent à eux reconnaissent que c'est justement là leur force. Non pas leur diplôme, non pas leur savoir. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est pour cela qu'ils sont des messagers et c'est pour cela qu'ils ont un message. Tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur ont un message, le message de ce que Jésus a fait pour eux. Ils sont tous, et nous sommes tous, par conséquent, ces messagers-là, porteurs d'une bonne nouvelle, porteurs de la victoire, de la nouvelle de la victoire de Christ en nous. Le livre de l'Apocalypse commence par sept lettres que Jésus envoie à cette église qui représente sept étapes différentes dans le développement de son peuple au travers du temps. Chaque lettre est introduite par Jésus, mais il est présenté chaque fois d'une manière différente. Il est présenté d'une manière qui est en rapport avec le message qu'il veut apporter et avec l'Église à laquelle il s'adresse. Ainsi, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, se trouve la dernière lettre que Jésus envoie à son église, qui est l'église de Laodicée, la dernière dans le temps avant son retour. Et il est intéressant de voir comment il se présente à cette dernière église. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, le témoin fidèle et véritable. Jésus, dans cette lettre, s'adresse à une église et il s'adresse à cette église en tant que témoin fidèle et véritable. Mais il s'adresse à une église qui croit tout savoir et qui ne sait pas. Il s'adresse à une église qui se croit riche et qui est pauvre. Il s'adresse à une église qui croit représenter comme il faut le Christ, mais qui n'est pas un témoin fidèle. Le témoin fidèle, c'est Jésus. Et en se présentant à cette église comme étant le témoin fidèle, il invite cette église à être elle aussi un témoin fidèle. À la fin, il est grand temps à être des messagers avec un message, à être des témoins avec un témoignage. Ainsi, par son baptême aujourd'hui, Michel va se joindre à l'équipe des messagers de Jésus, des témoins de Jésus. Mais je me pose la question, non pas de savoir si nous sommes des messagers ou pas, mais de savoir si nous avons un message, si nous avons encore ce message. Aujourd'hui, il y a un messager de plus, une voix de plus pour porter le message de la délivrance par Jésus-Christ. Avons-nous perdu le message? Courons-nous sans message? L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, disait ceci. « Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. » Paul savait où il allait, savait pourquoi il courait. Il avait un message, il avait un témoignage à donner. Ce n'était pas au hasard qu'il courait. Ce n'était pas une agitation fébrile qui donnait l'impression qu'il avait fait quelque chose. « Je cours, disait-il, mais pas à l'aventure. Je sais où je vais. Je sais de qui je parle. Je sais en qui j'ai cru. » Dans le livre « Une vie meilleure », je trouve ce paragraphe. J'aimerais le partager avec vous, je le trouve impressionnant. « Sans une foi vivante en Jésus comme notre sauveur personnel, il nous est impossible d'exercer une influence sur le monde incrédule. Nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous possédons nous-mêmes. » C'est dans la proportion de notre piété et de notre consécration à Christ que nous pouvons influencer pour le bien le monde autour de nous. S'il n'y a pas de service désintéressé, pas d'amour sincère, pas d'expérience réelle, il n'y a pas non plus de puissance efficace, pas de contact avec le ciel, et la vie n'est pas imprégnée de la saveur de Christ. Des messagers sans message. Les messagers qui ont des messages sont ceux qui ont été avec Jésus. Et encore une fois, le livre de l'Apocalypse au chapitre 14 nous présente trois anges, trois messagers, c'est le même mot, qui représentent tous ceux qui, à la fin des temps, vont apporter au monde l'évangile éternel. Dans une dernière proclamation de cet évangile au monde, ils ont un message clair. Ils ont trois messages nécessaires comme étant la vérité présente à la fin des temps pour un monde qui attend le retour de Jésus. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde la grâce d'être parmi ces messagers qui ont un message apportant la grâce de Dieu, un message montrant l'importance de l'obéissance au commandement de Dieu, un message qui apporte la paix, un message de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Amen.